Donc, alors évidemment, Shingarden, lui, en reste à la lecture normale, hein, d'un lecteur normal. Son objet n'est pas la lecture interprétative, mais évidemment, on peut imaginer la suite du schéma ascendant vers des couches plus profondes, hein, de signification. Voilà, alors j'arrête ce partage. Voilà, je reviens à mon écran. Voilà, et donc bon, alors le rapprochement n'est pas non plus si incongru que cela, hein, puisque dans l'un de ses derniers ouvrages de l'imperfection, on voit que Grémas, en fait, est assez proche des pensées des phénoménologues, de Husserl notamment, et donc a recours à la phénoménologie husserlienne pour parler de l'expérience esthétique. Donc le rapprochement avec Ingarden n'est pas si incongru que cela. Alors, à propos du substantif groupe, donc il désigne un ensemble d'individus considérés comme un tout, soit parce que les 10 individus partagent une caractéristique commune, soit parce qu'ils se trouvent dans le même lieu. Alors, pour la clarté de mon propos, je m'en tiendrai ici aux individus rassemblés dans un même lieu, sachant qu'ils peuvent néanmoins aussi être unis par une caractéristique commune, sociale notamment. Alors, il me semble que quatre cas de figure se présentent alors. Premier cas de figure, les regroupements à forte homogénéité sociale. Les personnages sont dans leur milieu, hein, ils sont réunis dans leur milieu social, ils ne sortent pas de leur groupe d'appartenance. Hein, je reprends les expressions de groupe d'appartenance et de groupe de référence au sociologue Robert King-Merton, qui désigne ainsi le groupe d'origine des individus ou le groupe vers lequel ils tendent, hein, et qu'ils essayent d'intégrer. Premier cas de figure, les regroupements à forte homogénéité sociale. Deuxième cas de figure, les regroupements à homogénéité sociale modérée. Certains personnages sont dans leur milieu, mais d'autres tentent de l'intégrer, faisant de celui-ci un groupe de référence distinct de leur propre groupe d'appartenance. La plupart des personnes sont dans leur milieu, mais d'autres individus essayent de pénétrer ce milieu. Troisième cas de figure, les regroupements à faible homogénéité sociale. Des personnages de classes sociales différentes se retrouvent dans un même lieu. Il peut s'opérer alors une hiérarchisation par l'argent, par la toilette, par les places des uns et des autres. Et ces regroupements apparaissent assez souvent dans les romans et comme des modèles réduits de la société, où on voit apparaître la société dans sa diversité, mais comme en réduction. Quatrième cas de figure, les regroupements où l'affectivité et l'instinct prennent le dessus. Et là, je renvoie aux réflexions un peu postérieures, hein, de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. À ce niveau-là, les distinctions sociales importent peu, hein. La foule devient une seule entité, hein, qui réagit comme un être à part, hein, comme un être en soi. Alors, puisque nous avons affaire à une œuvre littéraire, je m'intéresserai moins au système de signes que le groupe peut lui-même générer dans la vie courante qu'à celui auquel il s'intègre dans l'œuvre littéraire, donc dans l'œuvre flaubertienne ici. À ce titre-là, le groupe apparaît au niveau figuratif du parcours, hein, dans le parcours génératif dont nous avons parlé, donc au niveau des figures ou des objets figurés, si on se place du côté d'Ingarden, donc au niveau figuratif du parcours et sous diverses formes, cérémonies religieuses, noces, baptême, veillées funèbres, enterrements, processions religieuses, on le verra, cérémonies publiques, l'arbre de la liberté, par exemple, dans Bouvard et Pécuchet. Scènes de restaurant, d'auberge ou de café, réceptions privées, déjeuner, dîner, après-midi, parties de campagne, festin, bal, privé ou public, dans le monde ou dans le demi-monde, théâtre, à Paris ou à Rouen, courses de chevaux, clubs politiques, foules révolutionnaires, etc. Donc le champ d'investigation est très vaste. Et chaque scène de groupe mériterait d'être étudiée, comme l'a fait Henri Mitran pour le Club de l'intelligence dans l'éducation sentimentale, analysant à la fois le niveau actantiel, le jeu des configurations émotives, les clubs révolutionnaires, le tribunal, et le jeu sémantique de la prolifération des discours. Ne pouvant procéder de même dans l'espace de cette communication, mon propos s'apparentera plus à une déambulation sémiotique dans l'œuvre flaubertienne, plus particulièrement dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale. J'essaierai, chemin faisant, de tirer quelques fils généraux qui me semblent importants pour comprendre le groupe et la sociabilité chez Flaubert. Mais cet exposé sera forcément lacunaire, privilégiant telle scène ou tel schéma interprétatif plutôt que tel autre. Je préfère l'annoncer tout de suite. Voilà. Alors, l'épisode du Club de l'intelligence le montre. Le groupe, dans le roman de mœurs flaubertien, est souvent dysphorique, renvoyant à des valeurs négatives et déclenchant le rire du lecteur, sinon du personnage. Pour bien comprendre ces scènes nombreuses, peut-être faut-il revenir aux quelques scènes de groupe un peu euphoriques, c'est-à-dire euphoriques pour le héros, que nous offrent Madame Bovary et l'éducation sentimentale. Dans Madame Bovary, et cela a été abondamment commenté, le bal à la Vaubyessard est pour Emma un de ces sommets dans l'existence qui permettent par la suite de juger toute une vie. Le bal se situe au niveau figuratif et Flaubert le rend dans tous ses aspects sensitifs, hein, les aspects au sens où Ingarden parle de la manière dont l'objet figuré apparaît. Hein. C'est pour cela que cette scène reste si présente à l'esprit du lecteur, hein, par ses aspects sensitifs, comme à l'esprit d'Emma. Les sensations neuves, l'impression de légèreté, d'aisance, de vitesse lors de la danse avec le vicomte, tout sémantiquement concourt à l'expression de valeurs vitales. Le bal à la Vaubyessard se situerait du côté de la vie, tandis que l'existence morne d'Emma serait du côté de la non-vie. Voilà, si là on songe aux valeurs au plan au niveau profond et du carré sémiotique, vie, mort, non-vie, non-mort. Il s'agit bien sûr du point de vue d'Emma et non de celui du lecteur informé par tout un ensemble d'éléments, de scènes, de l'exagération de la jeune femme, notamment lorsqu'elle voit comme extraordinaire et auguste le duc de la Verdière, vieillard aux lèvres pendantes, nous dit le texte, qui laisse tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Au niveau sémio-narratif de surface, il s'avère donc que cette valeur vitale doit être modalisée. Il s'agit d'un semblant de vie, après quoi court Emma, et non de la vie même. On le sait, le bal à la Vaubyessard ne cessera de revenir dans le récit. Il hante l'esprit d'Emma, jusqu'à lui faire conserver amoureusement un porte-cigare trouvé par terre, jusqu'à lui dicter le choix d'un prénom pour sa fille, jusqu'à faire apparaître fugitivement le vicomte sur la route au moment où tout son univers s'effondre. Cette quête future se définit en fonction, certes, de ce que les livres, qui apparaissent comme de véritables destinateurs dans le schéma narratif, se définit en fonction de ce que les livres lui ont révélé, mais aussi de ce qu'elle a cru trouver par l'entremise de ceux-ci dans ce bal aristocratique. Cette scène de sociabilité, qui la projette au-dessus de sa condition dans un groupe de référence très éloigné de son groupe d'appartenance, semble unir deux objets visés par Emma, le milieu élevé et le sentiment amoureux. Du côté du milieu aristocratique, Emma montre son vouloir-faire et son relatif savoir-faire, mais la quête ne peut être totalement réalisée. La jeune femme n'est au château que pour un temps limité, et la connaissance de ce monde n'est finalement évoquée dans le texte qu'à l'irréel. Elle aurait voulu savoir leurs existences, y pénétrer, s'y confondre. Du côté du sentiment amoureux, la virtualité est encore plus présente. La relative sensualité, du moins du côté d'Emma de la danse, l'échange des regards, la légère ivresse, laisse dans son cœur une promesse de bonheur qui ne pourra jamais s'accomplir. Cela laisse aussi dans le texte comme une formule qui ne cessera d'être exploitée, et je vais m'attarder un petit peu sur cette formule, celle de la scène de groupe dans laquelle vient s'intégrer un duo amoureux. L'important étant ici dans l'idée d'intégration et d'harmonie justement entre la scène de groupe et le duo amoureux. Cette configuration idéale, qui est celle peut-être des contes de fées ou des opéras, nous y reviendrons, ne pourra bien sûr jamais se réaliser complètement et ne s'est d'ailleurs pas réalisée lors du bal à la Vaubyessard, mais tout le roman offre par la suite des tentatives d'actualisation de ce schéma. Le dîner au Lion d'Or, lors de l'arrivée des époux Bovary à Yonville, au chapitre 2 de la deuxième partie, en est un exemple. La scène de groupe se transforme, ou plutôt se double, d'un duo amoureux Léon-Emma. L'ironie est alors maximale, car non seulement le milieu, c'est-à-dire le groupe d'appartenance là d'Emma, ne s'harmonise en rien avec le sentiment, mais également les échanges du duo se résument à une suite de clichés romantiques. Le même phénomène se reproduit, hein, toujours scène de groupe et tentative de duo amoureux, toujours avec Léon, lors des soirées chez Homais, au chapitre 4 de la deuxième partie, et lors d'une partie de campagne, au chapitre 5. Le départ de Léon ne change rien à l'affaire. La scène des comices propose de manière magistrale le contrepoint ironique du bal à la Vaubyessard, avec un vicomte de pacotille dans le personnage de Rodolphe et un groupe tout autour, qui se rapproche d'ailleurs plutôt de la foule et qui boit les paroles ronflantes de M. Lieuvin, comme Emma boit celle de Rodolphe. La nouvelle rencontre avec Léon au théâtre de Rouen, alors que le couple Bovary a pris des places de première pour Lucia de la Mère Mort et qu'Emma se cambre la taille avec une désinvolture de duchesse, reprend à nouveau la formule avec cette fois-ci plus de succès. Moment intéressant à cet égard dans le roman. Le milieu semble alors éminemment favorable aux sentiments élevés. Et le duo amoureux entre Emma et Léon consonne avec les duos opératiques pour lesquels Emma vient de vibrer. Mais là encore, ce milieu du théâtre et l'opéra qui y est représenté, opéra avec son fameux sextuor qui est justement un moment vocal de groupe, hein, et ses fameux duos. Bon. Donc, ce milieu du théâtre et l'opéra qui y est représenté ne sont qu'illusions d'un moment. Emma d'ailleurs quitte vite les lieux, avant la folie et la mort de Lucia, pour se retrouver de manière déceptive dans un café avec son mari et son futur amant. Le bal masqué du chapitre 6 de la troisième partie répond quant à lui explicitement au bal à la Vaubyessard, tout y est dégradé. Le vicomte est devenu un clerc de notaire, la robe est remplacée par un pantalon de velours et des bas rouges avec une perruque à catogan et un lampion sur l'oreille. Les délicatesses du violon ont disparu pour le son furieux des trombones. Emma ne glisse plus sur le parquet du château, mais saute toute la nuit sur le plancher du bal. Quant au souper, il réunit un clerc, deux carabins, un commis et des filles du dernier rang. C'est la déchéance pour Emma, la fin de toutes ses illusions sociales et amoureuses. L'ironie veut que ce soit Charles qui réalise, ou presque, le seul vrai duo peut-être de tout le roman. Il le fait là encore sur le fond d'une scène de groupe, certes limitée, qui est celle de la veillée funèbre d'Emma, avec Homais et Bournisien. Les escarmouches d'Homais et de Bournisien, leur réconciliation, leur appétit, voire leur ricanement à la fin, offrent un fond grotesque au sublime de l'amour de Charles pour sa femme disparue. Le texte nous dit « il se posait en face d'elle pour la mieux voir et il se perdait dans cette contemplation qui n'était plus douloureuse » à force d'être profonde. Mais si cette attitude illustre bien le sentiment amoureux de Charles, le duo reste malgré tout virtuel, puisqu'Emma ne peut répondre, évidemment, à cet amour. Alors, cette solitude fondamentale du personnage, une fois les illusions dissipées, est aussi au cœur de l'éducation sentimentale. Mais l'investissement du schéma narratif y est un peu différent. Voilà, dans cette différence évidemment est intéressante. La quête du sujet n'y est pas celle d'un sentiment amoureux en harmonie avec son milieu, quête vaine, il est vrai, chez Emma, elle est celle d'un amour idéalisé d'une part et d'un milieu élevé d'autre part. Lorsque Frédéric, au chapitre 4 de la troisième partie, tout à sa joie de posséder Madame d'Ambreuse, croit que le sentiment s'harmonise avec le milieu, c'est la citation du texte, il se trompe, comme le texte nous le révèle quelques lignes plus loin, On nous dit, il n'en feignait pas moins de grandes ardeurs, mais pour les ressentir, il lui fallait évoquer l'image de Rosanette ou de Madame Arnoux. Dans ce roman, et dès le départ, le duo amoureux se lie en contradiction avec les groupes qui entourent les personnages. Il ne s'agit d'ailleurs plus vraiment d'un duo au niveau des configurations discursives, mais d'un solo de l'amoureux courtois, dispositif qui entre en contradiction avec celui de l'ambitieux balzacien censé arriver par les femmes. Dans un cas, la volonté de s'intégrer au groupe de référence s'avère un obstacle à l'amour. Dans l'autre, c'est l'amour idéal qui s'avère un obstacle à l'ambition. Et c'est ce système-là qui fonctionne la plupart du temps dans l'éducation sentimentale, où voilà, l'un des objets de la quête devient un obstacle pour l'autre quête. Donc, comme Emma, mais pour des raisons sensiblement différentes, Frédéric est voué à l'échec. Ces deux quêtes ne s'harmonisent pas, mais s'opposent l'une à l'autre. Les premières rencontres avec Madame Arnoux, dans des scènes de groupe plus ou moins homogènes socialement, sur le bateau, lors du dîner chez Arnoux, lors de la partie de campagne à Saint-Cloud, montrent le mécanisme d'idéalisation à l'œuvre sur un fond de médiocrité, voire de vulgarité, qui s'oppose au sentiment de Frédéric. Malgré les qualités de Madame Arnoux, sa quasi-sacralisation par Frédéric contraste ironiquement avec le milieu dans lequel elle évolue et avec les activités qui sont les siennes. C'est cet amour qui empêche Frédéric de se consacrer pleinement à la quête qui devrait être la sienne selon des lauriers, celle du monde et du pouvoir. Il pense un moment renoncer à une invitation chez les Dambreuses pour se rendre à Saint-Cloud et ne cessera de faire passer son obsession pour Madame Arnoux avant ses intérêts sociaux. Il est ainsi intéressant de voir que la plupart des scènes de groupe se construisent dans un décalage constant avec le personnage. Qu'il s'agisse de son groupe d'appartenance ou de son groupe de référence, Frédéric, lorsqu'il songe à Madame Arnoux, est toujours ailleurs et donc à l'écart. C'est le cas à l'Alhambra, où, au milieu de l'évocation assez grotesque de ce bal public, Frédéric rêve à la chanson de l'homme en haillon entre les tambours du bateau, référence à la ville de Montreux au début du roman. Et il laisse l'Andalouse et ses amis pour partir à la recherche d'Arnoux, une nouvelle fois substitut de sa femme dans le roman. C'est le cas du bal chez Rosanette, ce demi-monde dont il pourrait jouir avant de jouir du monde, où Frédéric éprouve un sentiment d'abandon, de malaise, et le texte nous dit « il songeait encore à Madame Arnoux, et il lui semblait participer à quelque chose d'hostile se tramant contre elle ». C'est le cas lors de la soirée chez les Dambreuses, où le souvenir de ses tristesses amène la pensée de Madame Arnoux. C'est le cas des courses au Champ de Mars, où Frédéric semble assumer son rôle social dans sa calèche avec Rosanette, avant de s'affaisser dans le coin de la berline, sentant qu'une chose irréparable vient de se faire et qu'il a perdu son grand amour. C'est le cas au Café Anglais ou à la Maison d'Or, lorsqu'il provoque Sizi en duel pour avoir mal parlé de Madame Arnoux. Le mouvement de Frédéric lorsque commencent les émeutes révolutionnaires de 1848 est à cet égard assez symptomatique. Il attend Madame Arnoux rue Tronchet et voit passer la foule composée notamment d'étudiants. Et à ce moment-là, le texte nous dit « Les amis de Frédéric étaient là, bien sûr, hein, parmi cette foule d'étudiants qui passent. Ils allaient l'apercevoir et l'entraîner. Il se réfugia vivement dans la rue de l'Arcade pour justement ne pas rejoindre le groupe en mouvement. » La formule est la même, mais avec des variations multiples dans sa concrétisation, hein, pour reprendre un terme cher à Roman Ingarden, le terme de concrétisation. C'est lorsqu'il oublie cette quête de l'amour parfait qu'il peut enfin être présent au monde social qui l'entoure et en adopter les codes. Cela commence véritablement lors de la célèbre scène du dîner d'Ambreuse, malgré le vertige qu'il ressent encore devant Madame Arnoux, puis lors de la veillée funèbre de D'Ambreuse, écho parodique à la veillée funèbre de Madame Bovary, ou lors de l'enterrement, toutes ces scènes étant des scènes de groupe et de sociabilité qui assoient Frédéric dans son rôle d'ambitieux. Mais dans le domaine de l'ambition comme dans celui de l'amour, Frédéric en reste à la virtualité d'un vouloir-faire, alors qu'avec Madame D'Ambreuse, investi d'un pouvoir-faire et d'une sorte de savoir-faire, il pourrait se lancer enfin. Il renonce au dernier moment, le faire ambitieux étant une nouvelle fois empêché par la confrontation avec la configuration de l'amour courtois lors de la vente du mobilier Arnoux. Le texte nous dit qu'il en ressort fier d'avoir vengé Madame Arnoux, mais accablé d'une courbature infinie. Frédéric est fondamentalement un spectateur de sa propre vie et de l'histoire, comme le montrent les scènes révolutionnaires. Face à la foule en armes, il est tour à tour admiratif et critique, mais il est surtout à l'écart. Lorsque Frédéric et Hussonnet croisent Dussardier, celui-ci ne s'aperçoit pas qu'ils sont sans armes et qu'ils ont seulement regardé la révolution se faire sans y participer. C'est au chapitre 1 de la troisième partie. Au club de l'intelligence, de même, et comme l'a bien montré Henri Mitran, c'est le spectacle qui prime, et lorsqu'une autre configuration, le tribunal révolutionnaire, se met en place, Frédéric n'a pas les ressources pour devenir le véritable acteur de l'événement. Alors, sur le plan sémio-narratif profond, le groupe, dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale, semble investi de valeurs de vie et de mort, mais la vie n'y est souvent qu'une apparence, une illusion, gagnée bien vite par une thématique mortifère. C'est le cas lors du bal chez Rosanette, où le repas, marqué par la gaillardise et le coup de fourchette des uns et des autres, s'ouvre telle une vanité picturale sur le mouchoir ensanglanté de la sphinge et sur les visions funèbres de Frédéric. Ce passage admirable et terrible, voilà, qui a été notamment commenté par Genette. Alors il frissonna, pris d'une tristesse glaciale, comme s'il avait aperçu des mondes entiers de misère et de désespoir, un réchaud de charbon près d'un lit de sangle et les cadavres de la mort dans tablier de cuir avec le robinet d'eau froide qui coule sur leurs cheveux. Même le bal à la Vaubyessard sent quelque part la mort avec ce vieillard gâteux qui en est comme l'emblème. Selon un système de pensée que l'on a abondamment rapproché du nihilisme, tout à la fin semble placé du côté de la non-vie, du néant, sauf peut-être cette non-mort toujours subsistante qui est la vie sensitive. Et là, je renvoie également à Gérard Genette et à ce qu'il a dit là-dessus. Dans les ouvrages antiques, ces mêmes principes se trouvent mis en jeu et en figure de manière assez différente. Voilà, on va voir comment justement les choses, notamment au niveau du schéma narratif, sont différentes. Le groupe n'y est plus l'objet d'une quête faussement placée du côté de la vie. Il est l'acteur même du drame. Et ce déplacement, évidemment, est primordial de l'objet de la quête au sujet et à l'acteur du drame qui se déroule. Cela a été beaucoup souligné, les individualités s'effacent dans Salammbô pour laisser la place aux masses, à la foule. Le vrai sujet y est l'armée des mercenaires et le contre-sujet Carthage. Les individualités, malgré le souvenir de la formule du duo sur fond de scène de groupe, on peut penser à l'ouverture du roman qui reprendrait voilà, quelque part cette idée du groupe dans lequel s'intégrerait le duo. Donc, ces individualités n'y sont que les représentants d'une foule, voire même les représentants des valeurs de vie et de mort. À Salammbô, Tanit, Carthage, le roman ne cesse de rapprocher le personnage de Salammbô de la déesse Tanit qui représente la vie et de la ville de Carthage, s'oppose Mato, le rebelle, Moloch, donc il est associé sans cesse à Moloch, le dieu terrifiant, et à l'ensemble des mercenaires. Au chapitre 15, il est dit clairement, Salammbô resplendissante se confondait avec Tanit et semblait le génie même de Carthage, son âme corporifiée. La rencontre sous la tente est celle de deux entités, malgré la sensualité de la scène, plus que celle de deux individus. Le passage célèbre, Moloch, tu me brûles, et les baisers du soldat, plus dévorateurs que des flammes, la parcouraient. Elle était comme enlevée dans un ouragan, prise dans la force du soleil. Rencontre de Tanit et de Moloch. La foule permet de mieux figurer, ou en tout cas de figurer plus directement, les forces vitales et mortifères, car elle se place du côté de l'instinct et de la force inconsciente. Flaubert s'en souviendra dans les scènes révolutionnaires de l'éducation sentimentale, où le peuple est à la fois décrit comme une marée montante et comme une foule oppressante et suffocante. Cela explique sans doute la tonalité épique, voire mythique, qui est celle du roman. Même la réunion du Conseil des Anciens, qui devrait donner lieu en toute rigueur à une scène réduite de groupe où s'exprimerait la position des hommes les plus riches de Carthage, est décrite au fur et à mesure comme celle d'une foule menaçante à l'égard d'Hamilcar. Le substantif « foule » revient sans cesse hein, dans cette scène. Le groupe des anciens est comparé à une foule. À la fin du roman, l'une des masses l'emporte sur l'autre, celle de Carthage Tanite sur celle des mercenaires apparentés à Moloch. Mais le roman ne cesse de brouiller les pistes, montrant que Tanite a besoin de Moloch et du massacre des enfants pour renaître. La victoire de Carthage n'est d'ailleurs que provisoire, le lecteur sachant très bien à quelle mort et à quelle destruction est vouée la ville. C'est la même ambiguïté, peut-être, qui préside au festin d'Hérode dans Hérodias. Au-delà des éléments qui semblent en faire une réécriture à l'antique du bal de Rosanette, même attention à la nourriture, au luxe apparent, à la luxure, même ouverture sur un cadavre à la fin, ce repas semble avoir pour but de nous mettre au centre de la dialectique fondamentale entre vie et mort, ingurgitation et régurgitation, voir le comportement d'Aulus, le futur empereur Vitellius, décapitation et résurrection, avec tout le dialogue autour de la résurrection avant la décapitation même du Baptiste. Salomé est plus que Salomé ici, et Hérode plus qu'Hérode. Le duo érotique ne dure d'ailleurs qu'un instant, et c'est moins Antipas qui décide de la mort de Jean-Baptiste que le groupe des prêtres, des soldats et des pharisiens. Là, c'est une citation du texte, les prêtres, les soldats et les pharisiens, tous réclamant une vengeance, et les autres indignés qu'on retardât leur plaisir, tous dans l'attente de la mort de Jean-Baptiste. Le groupe et la foule ont donc partie liée avec la vie et la mort, de manière plus ou moins directe, selon les récits et de façon très diversifiée, sur le plan de la narrativisation et de la discursivisation. Mais est-il possible d'échapper, sinon à cette dialectique de la vie et de la mort, du moins à cette figure du groupe ? Deux œuvres pourraient y parvenir, « La tentation de Saint-Antoine » et « Bouvard et Pécuchet ». Peu de scènes de groupe à attendre, en effet, de la vie d'un solitaire au fond de son désert ou de celle des deux compères à Chavignol. Mais la foule ou le groupe, dans leur négativité, font à leur manière retour. Alors, de manière différente, là encore des autres romans, mais malgré tout, ils réapparaissent au moment où on ne s'y attend pas. Au chapitre 4 de La Tentation, c'est une foule immense que voit Antoine dans une basilique, l'une de ses visions. Je cite le texte, « La lumière se projette du fond, merveilleuse comme serait un soleil multicolore. Elle éclaire les têtes innombrables de la foule qui emplit la nef et reflue entre les colonnes vers les bas-côtés, où l'on distingue dans des compartiments de bois des autels, des lits, des chaînettes de petites pierres bleues et des constellations peintes sur les murs. » Et cette foule que voit Antoine se divise tout de suite en multiples groupes qui, nous le comprendrons après, représentent les différentes hérésies. Voici ce que dit le texte. Au milieu de la foule, des groupes, ça et là, stationnent. Des hommes debout sur des escabeaux haranguent le doigt levé et d'autres prient les bras en croix, sont couchés par terre, chantent des hymnes ou boivent du vin. Autour d'une table, des fidèles font des agapes, des martyrs démaillotent leurs membres pour montrer leurs blessures, des vieillards appuyés racontent leur voyage. Hilarion pousse alors Antoine vers Manès, entouré de 95 disciples. La discussion s'entame entre des fondateurs d'hérésie, Manès, Marcion, Origène, etc., avec parfois l'intervention des groupes hérétiques en tant que tels, qui prennent la parole, les Herniens, les Priscillianiens, les Marcosiens, les Carpocratien, etc. Comme dans d'autres scènes de foule flaubertienne, comme on peut penser au sac des Tuileries, l'apparent calme initial se transforme en fureur après l'intervention des Caïnites et des Circoncellions. Et là, le texte dit donc dans toute la basilique, c'est un redoublement de fureur. Les colonnes se balancent comme des troncs d'arbres. Les amulettes au cou des hérésiarques entrecroisent des lignes de feu, les constellations dans les chapelles s'agitent et les murs reculent sous le va-et-vient de la foule dont chaque tête est un flot qui saute et rugit. La dernière proposition, dont chaque tête est un flot qui saute et rugit, peut faire penser au sac des Tuileries, dans l'éducation sentimentale, où on retrouve de même la tête, le flot, non pas le mugissement, mais non pas le rugissement, mais le mugissement. Pour cette scène-là de foule en fureur, comme effectivement nous l'avons également dans l'éducation sentimentale. Dans Bouvard et Pécuchet, nous n'avons pas affaire à un solitaire, un ermite, mais à un duo d'amis qui s'éloignent de la ville et s'installent dans le Calvados. Malgré ce relatif isolement, le roman, là encore, offre quelques scènes de groupe toujours déceptives. Les plus notables sont sans doute les scènes politiques et religieuses qui s'apparentent, dans l'intrigue, à l'expérimentation de nouveaux champs de connaissances. Les événements de 1848 offrent notamment la fameuse scène, plutôt ridicule, de l'arbre de la liberté, dans une apparente concorde générale. La volonté d'organiser un club saisit même certains habitants. Cela n'aboutit pas, et l'expérience politique s'avère un échec, comme toutes les autres expériences des deux amis. À la cérémonie publique de l'arbre de la liberté était associé le curé. Quelques pages plus loin, c'est du côté de la religion que se tournent Bouvard et Pécuchet après un suicide raté, lorsqu'ils se retrouvent à la messe de Noël, au milieu de tous ces gens, nous dit le texte, absorbés dans la même joie profonde, ils sentent comme une aurore se lever dans leur âme. Mais cette nouvelle expérience de la communauté n'est pas plus valide que l'autre, et le chapitre 9 se termine sur l'ironie de Bouvard à l'égard de Marcel, en prière comme un fakir en extase. Difficile donc de se défaire de la société, même pour les ermites et les solitaires, mais ces scènes de groupe, nous en avons eu un léger aperçu, se présentent généralement, et c'est l'un des soucis majeurs de Flaubert, de manière très variée. Flaubert cherchant à ne pas répéter quelque chose de déjà écrit et à ne pas se répéter aussi lui-même. J'aimerais, pour illustrer cela, cette variété dans la reprise des mêmes motifs, m'arrêter sur une scène bien particulière d'une œuvre que je n'ai pas encore évoquée, Un cœur simple. Car le travail sur la procession religieuse au moment de la mort de Félicité me semble exemplaire de la manière dont Flaubert utilise et réutilise certaines configurations d'un livre à l'autre, et même au sein de la même œuvre, de manière renouvelée. La fin du conte a été abondamment commentée, notamment d'un point de vue génétique, le dernier paragraphe sur la confusion entre le perroquet et le Saint-Esprit, mais j'aimerais pour ma part jeter un œil sur le début de cette partie finale. Lorsque la mère Simon s'étant endormie, Félicité songe à la procession qui commence. Je cite pour rappel ce passage. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait comme si elle l'eût suivie. Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs, tandis qu'au milieu de la rue s'avançait premièrement le Suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l'instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles, trois des plus mignonnes frisées comme des anges jetaient dans l'air des pétales de rose, le diacre, les bras écartés, modérait la musique, et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement, que portait sous un dais de velours ponceau tenu par quatre fabriciens, monsieur le curé dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons, et l'on arriva au bas de la côte. Cette scène a été préparée par beaucoup d'autres, depuis les leçons de catéchisme auxquelles assiste Félicité avec la fille de Madame Aubin, jusqu'à l'intérêt pour les précédents reposoirs de la fête-dieu, en passant par la cérémonie de première communion de Virginie, où, dans sa vraie tendresse, elle s'imagine être à la place de la jeune fille. Dans toutes ces scènes de groupe, derrière la sympathie pour ce cœur simple, l'ironie de Flaubert perce à l'égard de la religion, notamment lorsque Félicité, communiant après Virginie, ne goûte finalement pas les mêmes délices que la veille en imagination, lorsque c'était Virginie elle-même qui communiait. La scène finale est malgré tout différente de ces autres scènes, en ce qu'elle fait se superposer deux configurations très éloignées normalement l'une de l'autre, celle de l'agonie et celle de la procession. Une agonisante, clouée dans son lit, ne peut assister à une procession dans les rues. Il entre certes dans son parcours figuratif d'avoir des visions avant de mourir, elle en aura bien une à la toute fin, mystique ou délirante selon l'interprétation, croyant voir son perroquet tel le Saint-Esprit planant au-dessus de sa tête. Mais la vision qui se propose à elle dans un premier temps se situe en dehors du délire, comme le dit bien le texte. Elle n'est donc pas signe de mort, mais une sorte de continuation de la vie sensitive ou imaginairement sensitive de Félicité. Et on peut se souvenir à cet égard de la scène de première communion de Virginie et de la manière dont l'imagination fonctionne chez Félicité. La procession peut ainsi se dérouler sous nos yeux dans toute la richesse de ses aspects, au sens où Ingarden emploie le terme, avec ses personnages attitrés, les fabriciens portant le dais, le bedeau, la religieuse, les petites filles, le curé. Flaubert a bien soin de nous rappeler ici, ou là, que nous sommes du point de vue de Félicité. Parmi les petites filles, trois des plus mignonnes sont frisées comme des anges. Le curé, quant à lui, est dans sa belle chasuble. Tout cela, évidemment, peut être mis au compte de Félicité. C'est l'admiration béate des simples pour la religion que l'on retrouve ici, et le « on » final semble inclure la spectatrice en imagination et le lecteur dans ce mouvement de la foule. Le côté saisissant de ce passage est dans le pathétique que Flaubert arrive à tirer de la superposition des deux motifs. Prise en elle-même, la procession ressemble fort aux scènes déjà vécues par Félicité de cérémonies religieuses, et l'ironie sous-jacente à l'égard des choses de la foi n'en est pas absente. Mais elle passe au second plan, par rapport au sursaut de vie sensitive dont elle témoigne juste avant la mort du personnage. Après la vue qui sera déléguée à la Simone, elle seule peut vraiment regarder Loulou autour du reposoir, c'est Louis qui s'impose, ronflement des ophicléides, voix claire des enfants, voix profonde des hommes, bruit des pas amortis par les fleurs, puis l'odorat, Félicité humant avec une sensualité mystique, la vapeur d'azur après l'évocation des encensoirs. La raison de cette procession n'est pas indifférente. Ici est la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire du corps mort et ressuscité de Jésus, entre dans la logique symbolique de la scène. Mais de même qu'au début du passage, c'est l'individu sensible qui l'emporte sur la représentation du groupe, à la fin, c'est l'expérience très personnelle et encore très sensitive de Félicité face à son perroquet qui l'emporte sur le grand soleil d'or de l'hostie. Comme nous n'avons cessé de l'entreapercevoir, le groupe, même et surtout religieux, est souvent par l'ironie placé du côté de la non-vie. La seule chose qui puisse encore lutter contre les forces mortifères est la vie sensitive, et la vie sensitive d'un cœur simple, éloigné par sa simplicité même de la plupart des lieux communs de la bêtise, a sans doute plus de prix qu'une autre et s'apparente quelque part à la sainteté. Alors pour conclure, je dirais que même si le groupe et la foule doivent être envisagés sans doute au niveau profond du parcours génératif dans leur rapport à la vie et à la mort, à la non-vie et à la non-mort, on a pu voir combien les modalisations de ces valeurs, leurs différentes actualisations au niveau narratif, comme objet de quête ou comme sujet, les associations avec d'autres figures, individuelles ou duelles, et surtout la richesse scénique de la manifestation textuelle, permettaient de renouveler sans cesse l'approche de ces objets. À la fin de l'imperfection, Grémas se demande s'il est possible de resémantiser les objets usés et usagés pour permettre l'accès à l'événement esthétique. C'est ce que n'a cessé de faire Flaubert tout au long de son œuvre. Reprenant des figures ou des configurations usées par les autres et par lui-même, il a su les renouveler au prix d'un grand travail à tous les niveaux du parcours génératif et nous proposer parfois, avec presque rien, de l'inattendu. Voilà, je vous remercie.